Tempestade 2.1.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Bienvenue sur Tempestade 2.1, j'espère que vous allez bien. On commence ce samedi après-midi ensemble sur Radio Alpha. Et jusqu'à 16h, c'est Léa et à mes côtés en studio, Tony et Julie, salut.
Bonne tarde.
Salut tout le monde.
Et en face de nous, aux manettes et en régie, Edouard, salut.
Salut Léa, salut tout le monde.
Bon, il fait très très froid aujourd'hui, alors quoi de mieux que de rester chez soi avec un bon plaid ou dans sa voiture à écouter Tempestade 2.1. Et aujourd'hui, à nos côtés pour ces deux heures d'émission, nous recevons un historien spécialiste du Portugal au XXe siècle, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Il est également chercheur à l'Institut d'Histoire Contemporaine de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Bonjour Victor Pereira.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors tu vas nous parler d'histoire et notamment de ton dernier ouvrage, c'est Le peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976. Il t'a fallu combien de temps pour écrire ce livre ?
Très bonne question. À la fois, il m'a fallu beaucoup de temps parce que souvent la recherche en histoire, ça demande des lectures qui sont sur des années. Mais précisément sur ce bouquin, donc, dès que j'ai eu l'idée et terminé, un an de travail.
Un long travail de recherche.
Exactement,
aussi.
Aller aux archives, lire des bouquins spécifiques sur des choses que je n'avais pas lues, faire un peu d'entretien, mais pas beaucoup. Mais donc tout ça, ça m'a pris un an, oui.
Et dans ce livre-là, justement, tu parles de la Révolution sous un angle différent. On va en parler au moment de l'interview un peu plus en détail en deuxième heure. On va parler d'ailleurs de plusieurs sujets pendant ces deux heures ensemble. Mais avant, petite question, la période de Noël est lancée. J-22 avant Noël, j'ai compté. Est-ce que vous avez déjà préparé vos décorations et votre sapin de Noël ?
Alors, je fais jamais sapin de Noël, pardon.
Non, mais
alors, je fais jamais sapin de Noël.
Ah bon ?
Techniquement, non, mais elles sont faites. Mais c'est pas moi qui les ai faites.
Donc
je n'ai rien préparé, mais tout est prêt.
D'accord, t'as regardé.
Ah non, j'ai même pas regardé. Non, je suis arrivé, je crois, samedi dernier, il y a deux semaines déjà, parce que mon frère adore la période de Noël, et je suis arrivé, le sapin était déjà monté.
Magnifique.
Bon, qu'il faut pas compter sur moi pour le faire, parce que moi je m'en fiche un peu, mais au moins il est fait.
Julie, Edouard ?
Moi j'ai... Non, pas encore. J'ai pas mon encore. Calendrier de l'Avent que ma mère fait. C'est elle qui le fait, donc. Okay. Mais c'est tout. Mais c'est déjà bien.
T'as des cadeaux aussi,
c'est
déjà
ça.
Moi, j'ai déjà acheté mes cadeaux.
Par
Noël.
Contre, elle a déjà les cadeaux, tu vois.
Ouais, voilà,
j'ai fait ni le sapin, ni les cadeaux.
Moi, je prépare les cadeaux, les autres s'occupent du sapin.
Et toi, Edouard ?
Moi, je fais tout à la dernière minute, mais je lance un appel à ma mère qui m'a toujours pas acheté mon calendrier de l'Avent. Donc, s'il te plaît, maman, si tu peux me l'acheter et me l'offrir, ce serait top.
Et Victor, t'as un calendrier de l'Avent ?
J'ai pas de calendrier.
Ni sapin, ni calendrier de l'Avent.
Je me rends compte que je suis vraiment pas dans l'esprit de Noël.
Ah, on va t'y mettre.
Et oui, là, avec les musiques en plus qui tournent partout.
Ah, c'est bon, j'ai déjà entendu Mariah Carey, là, ça suffit.
Mais comme tu fais pas tes cadeaux, tu vas pas dans les magasins, donc t'entends pas les musiques de
Noël.
Exactement. Ah ouais, c'est vrai.
Tu préserves ça.
Moi, c'est pas que j'ai pas envie de faire les cadeaux, c'est que j'ai pas envie d'écouter la chanson. Et je sais que si j'y vais, je vais avoir la musique dans la tête.
Tu mets tes écouteurs.
Donc je me préserve. Non, je pense que les écouteurs, ça te coupe du monde.
Et moi, oui, mais en même temps, comme ça, tu te coupes des musiques de Noël.
Non.
Tu mets ta rétrospective de ta plateforme d'écoute.
Ouais, c'est une des solutions. En tout cas, mon sapin est prêt, les décorations sont en cours actuellement. Alors dites-nous, vous, sur WhatsApp au 06 62 10 98 60, si vous avez fait votre sapin de Noël, et envoyez-nous vos photos donc sur WhatsApp ou par Instagram et Facebook. Pour l'instant, on va se préparer pour le blind test, juste après une musique de DJ Snake. C'est l'un des artistes les plus populaires dans le monde. Il a annoncé cette semaine sur YouTube qu'il donnera un concert au Stade de France le 10 mai 2025. Oui, 2025. Donc en attendant son concert et son troisième album, on va écouter Taki Taki avec Selena Gomez, Ozuna et Cardi B.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I'm music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Saki, prende los motores de Kawasaki, en la discoteca. sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija board. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. My body already know how to play. The work it keep it tight every day. And I know you need a taste. Now ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's so fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but no one can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie give. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba.
Radio Alpha, estamos ligados pela alegria.
Termstadt 2 points, c'est le moment du blind test et vous allez jouer avec nous. L'équipe, Victor, est-ce que vous êtes prêt?
Je suis allez. Super prêt.
Il me fait peur, Edouard. Ah.
Ça sera sur le thème de l'histoire cette semaine.
Oh.
Des musiques historiques.
Ok, okay.
Grenoble-Villemolena. Je suis sûr que la première, c'est Grenoble-Villemolena.
Ouais, c'est
Grenoble.
Sûr qu'il y aura Grenoble.
C'est, voilà. Des musiques anciennes, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Elle parle, mais elle ne parle pas forcément d'histoire.
Non, pas forcément. Non, mais
on a peut-être une chance.
Ok,
dans
c'est
le passé.
Moi, voilà, je suis d'accord, c'est sûr qu'il y a Grando. Ouais,
okay. Bah, on va voir, n'essayez pas de spoiler l'émission, ça serait sympa. On commence par le premier extrait, c'est parti. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe.
J'adore cette musique.
Super sympa la rythme.
Je ne saurais pas te dire par contre qui. Oh la honte.
Le chanteur s'appelle Chuck Berry.
Ah oui.
Et le titre c'est You Never Can Tell.
Comment ça tu connais pas Tony?
Non, je connais pas.
Si, moi je connais.
Premier rock dans les années 50.
Cette musique est sortie en 1964, pour être précis. Et pour la petite histoire, il a écrit cette musique pendant ses 20 mois passés dans un pénitencier fédéral de l'Indiana pour possession illégale d'armes. Et ça m'étonne, Tony, que tu connaisses pas la musique, parce que c'est la musique emblématique du film Pulp Fiction.
Bah oui.
Un véritable classique.
J'ai pas vu le film.
Non, tu l'as
T'as pas vu le film.
Ah,
alors là, Tony.
J'adore.
Là, je te pardonne pas.
En plus, il y avait une actrice portugaise dans ce film, dans Pulp Fiction.
Bah, oui, Medeiros, elle joue dans le film. Mali Medeiros, c'est elle qui a réalisé aussi le film Capitaine, je dis
rien. Exactement.
Mais me jugez pas.
Non, mais Tony,
c'est
non,
pas
ça. On
te juge pas, on t'apprend et on donne l'info aussi.
À la fin de l'émission, tu regardes Pulp Fiction, il n'y a pas de.
Et Capitaine
Pas de problème.
Et Capitaine, je dis rien aussi.
Pas de problème.
On enchaîne avec le deuxième extrait. Entre de ti, en ciudad.
Bah voilà, on l'avait dit.
Dois-je c'est vraiment présenter cette musique?
Tony, tu sais le chanteur ou pas?
Je connais pas cette musique, ça me dit rien du tout, c'est bizarre.
Et le chanteur Tony?
Non, par contre, je suis pas sûr d'avoir.
Zac Afonso.
Mais enfin, je suis sûr de le connaître, ouais.
Zac Afonso.
Mais j'aurais pas eu le nom, par contre.
Est-ce que vous avez l'année à laquelle était enregistrée cette musique?
Enregistrée.
Enregistrée.
Moi, je sais, mais je vais pas spoiler.
J'allais dire 70.
Presque, 71.
Exactement.
Ah. Et en plus, les graviers que vous entendez, c'est des graviers français.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, cette chanson, elle est enregistrée en France,
oui,
au château d'Hérouville, dans le Vexin. Et donc, quand il a enregistré Zac Afonso et José Malublanc, ils sont sortis la nuit pour marcher, pour enregistrer ces sons de gravier.
D'accord. Ok.
Eh, je me rattrape, j'avais à peu près l'année. Ça va.
En tout cas, pour l'instant, au début de Blind Test, vous n'êtes pas mauvais par rapport aux précédentes semaines. On continue. Troisième extrait.
Est-ce que ce serait pas Edith Piaf?
Non, ce n'est pas Edith Piaf.
C'est Dalida.
Exactement.
Ah, voilà. Dalida. C'est celle qui veut
mourir
sur scène.
Merci d'avoir fait un blind test avec une musique de vieux pour moi. C'est vraiment super sympa.
Mais elle est incroyable cette musique, j'adore.
Est-ce que vous avez le titre de la musique?
Ça non, pas
quoi. C'est Romantico, non?
C'est Romantica, exactement.
Ah, on te l'a quand
même. Elle le dit.
Elle est sortie en 1960. Ça remonte, mais ça reste quand même un classique.
Mais c'est incroyable, la musique française à l'époque, elle était tellement mieux. Désolée. Hein.
Quatrième extrait. Alors là, cette fois-ci, c'est une petite entrave au blind test. C'est pas vraiment d'histoire, mais allez, je me suis dit, on
va se faire
un virage. Voilà, exactement. C'est parti.
C'est Joe Pissar, c'est la dernière.
C'est pas encore un classique, mais ça va le devenir.
Peut-être dans 10 ans, Léa. Et effectivement, c'est bien Joe Pissar, Not Today, et sorti il y a
Not
une semaine.
Not
Today.
Not Today, ok, j'avais pas le titre.
Elle est sortie il y a une semaine, et c'est un artiste que vous avez reçu
qui est sorti
dans l'émission.
Mais il y en a une autre qui est sortie, il n'y a pas Théo aussi, il a sorti les deux à peu près un jour d'intervalle, je crois.
Alors, je ne sais plus à quelle date, mais Théo aussi, effectivement.
Si, parce que moi, je suis sur son canal Instagram, il faut le savoir.
Wow.
Je fais partie de l'élite.
On retourne dans le passé avec l'avant-dernier extrait. Et attention, c'est un de mes coups de cœur, donc j'espère que vous allez avoir le titre.
Oh là là, la pression.
C'est parti. Wow.
C'est Mélodie.
Un véritable classique. Tom Fragé.
Et moi, j'ai une copine qui l'a vue en concert cet été dans son village de mer ou je sais pas quoi. Donc bisous Alix.
Il fait encore des concerts, c'est une bonne nouvelle.
Mais oui, mais c'est incroyable.
Okay. Incroyable.
Et effectivement, là, on a plusieurs périodes historiques complètement différentes. Hein.
C'est ça, exactement.
On a tout fait là.
C'est
ça
bien. Mais on est polyvalent.
Exactement. Dernier extrait, c'est parti.
Minha casinha do Chute.
Chute une bombe tapée, exactement.
Bah ouais. Ah là là, mais celle-là, c'est encore. Moi, je l'écoute tout le temps,
c'est
en fait.
Cette musique, elle me fait penser à l'Euro 2016.
Ah ouais,
ouais.
Parce que pourquoi c'est la chanson que quand le Portugal a gagné la coupe, et sur la pelouse, bah, c'est quand ils ont soulevé la coupe, et quand ils faisaient la fête sur la pelouse après le match, c'est cette musique-là qui était jouée.
D'accord.
Moi, ça me fait penser à quand je sors avec mon père, mes sœurs, les potes de mon père au bar, et qu'il y a ça qui arrive et qu'on chante à fond, quoi.
Victor, elle t'évoque quoi, cette musique?
Alors moi, elle m'évoque tous les étés ou dans tous les villages du nord du pays d'où mes parents sont originaires, et les fêtes. Et souvent, il y a des groupes qui font des reprises, donc le fan de Skepim, mais celle-ci, elle rentrait dans le répertoire. Donc pour moi, c'est les fêtes du mois d'août. Jusqu'à pas
d'heure. C'est la joie.
C'est ouais, c'est en fait, c'est ça, c'est tout ce qu'on
soit, mais c'est la joie.
La joie portugaise.
C'est vrai.
C'est tout pour moi. En tout cas, vous avez été très bon cette semaine.
Et
franchement,
on connaît.
Je ne dirais pas que c'est grâce à moi. Je ne vais pas dire ça.
Merci Edouard pour ce blind test. Alors, on aime vous partager les classiques, mais aussi les dernières musiques du moment. Alors, en voici une nouveauté, le dernier morceau de Joe Pissar, Not Today. À tout de suite sur Radio Alpha.
Sinto que o mundo está cada vez mais fake. Ou será que sou eu que fiquei mais velho? Por Porque ninguém nasceu para ser perfeito, mas no fundo todos escondem os seus defeitos. Então desculpa, eu acho que não tenho jeito para fingir que gosto, então não me leves a peito. Já cansei de ser bonzinho, por isso não deixo que me afetes. Eu no fundo não te odeio. Sem noção que eu perco a noção de tantas noites fora que nem sei quem dar a mão. Eu só me preocupava se gostam de mim ou não, mas agora só quero saber quem está comigo ou não. Só quem me conhece é que me merece, e só quem me interessa é quem eu respeito. Eu sei que tenho muitos defeitos no fundo, mas bem lá no fundo eu não te odeio. Sinto que o mundo está cada vez mais fake, ou será que sou eu que fiquei mais velho? Porque ninguém nasceu para ser perfeito, mas no fundo todos escondem os seus defeitos. Então desculpa, eu acho que não tenho jeito para fingir que gosto, então não me leves a peito. Já cansei de ser bonzinho, por isso não deixo que me afetes. Eu no fundo não te odeio.
Et tout de suite sur Termstad 2.1, c'est le moment de faire un point sur l'actualité sportive de la semaine avec toi, Tony, comme chaque samedi.
Et ouais, la sélection portugaise de football, ça commence par une mauvaise nouvelle, hein, forcément. Elle s'est inclinée ce vendredi soir contre la Norvège, une défaite 4-0 et qui acte sa relégation en Ligue B de Ligue des Nations dans le même groupe. L'équipe de France s'est imposée contre l'Autriche. Les Bleus sont qualifiés pour la demi-finale de la compétition. Mardi, justement, le Portugal reçoit la France à Oeiria, dans cette belle ville du centre du Portugal.
Oh là là.
Et on espère au moins un exploit sportif. On repasse sur les hommes, et pas de n'importe quelle manière, parce qu'à quelques minutes, on parlait de Chutes e Pontepes et de leur chanson à l'Euro 2016. Dans quelques heures, on connaîtra enfin les adversaires du Portugal à l'Euro 2024. La compétition de l'UEFA est organisée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Et le Portugal est dans le chapeau 1 grâce à sa campagne de qualification légendaire. Rendez-vous à 18h pour suivre ce tirage. Le Portugal est déjà assuré de s'éviter quelques grosses affiches, quelques grosses têtes de cette compétition. Mais il y en a encore quelques-unes, donc on espère, on croise les doigts pour avoir...
C'est le Portugal la grosse tête de la compétition.
Il y en a quelques-unes, mais on fait partie des meilleurs. On espère donc de meilleures nouvelles que les résultats obtenus sur la scène européenne. Cette semaine, mardi, Porto n'a pas réalisé l'exploit contre le FC Barcelone et devra impérativement s'imposer contre le Shakhtar. Toujours pas de victoire pour le Benfica non plus, malgré un avantage de 3-0 à la mi-temps. Et malheureusement, je ne ramène pas de meilleures nouvelles pour Braga et pour le Sporting, tous les deux neutralisés par l'Union Berlin pour l'un et l'Atalanta pour l'autre. Mais malgré ces résultats en demi-teinte, on peut quand même se féliciter d'avoir les quatre clubs qui restent en course pour un printemps européen, chacun dans sa compétition, mais on a encore le droit de rêver.
Et oui, on a le droit de rêver. Merci Tony pour ce récap sportif. Et dans l'échange de la semaine, je vous parle aujourd'hui d'une actualité qui a chamboulé pas mal de monde ces derniers jours au Portugal, au point de créer une nouvelle polémique. Alors, pour tout vous expliquer, le gouvernement a décidé de retoucher son image institutionnelle et le symbole qui le représente sur les plateformes et documents officiels. Donc, adieu le drapeau portugais traditionnel qui était représenté donc sur le site, et place à un symbole portugais nouveau, distinct et, je cite, représentatif du gouvernement de la République portugaise, qui se traduit par une image inclusive, plurielle, laïque et écologique. Je cite ce qui a été écrit sur le site officiel. Alors, pour vous donner une idée visuelle à tous ceux qui nous écoutent, sur ce nouveau logo institutionnel du Portugal, la sphère armillaire a été retirée, tout comme l'écusson, les châteaux et les plaies du Christ, ainsi que tous les symboles. Donc ce nouveau logo institutionnel n'a plus qu'une partie en vert à gauche, au milieu un cercle jaune et à droite une partie en rouge. Une modification qui a coûté 74 000 euros au gouvernement, donc vous imaginez la polémique au Portugal et les bruits qui courent. Et pour les curieux, vous pouvez retrouver donc sur internet, sur le site du gouvernement, ce nouveau logo institutionnel portugal.gouv.pt. Alors, il y a quelques mois en arrière, je vous parlais par exemple de Dino Santiago qui voulait modifier l'hymne du Portugal. Ça, voilà, on en avait parlé. Ouais. Ça a créé également une petite polémique. Aujourd'hui, c'est le logo qui a été modifié. Alors, Victor, j'ai une petite question pour toi en tant qu'historien. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra peut-être modifier l'hymne du Portugal ou le drapeau ?
Ces drapeaux et cet hymne, ils ne sont pas du tout immuables. En fait, ils ont changé déjà. Le drapeau tel qu'on le connaît maintenant, il date de 1910, date de l'installation de la République. Avant, c'était un drapeau bleu et blanc. Et déjà, à l'époque, il y avait eu un énorme débat sur est-ce qu'il faut changer de drapeau, est-ce qu'il faut garder le drapeau de la monarchie, etc. Sur l'hymne à portugaise, c'était un hymne républicain qui vient aussi pendant la République. Donc ça change, les choses changent. En fait, les historiens, à force d'étudier le changement, ils trouvent ça tout à fait normal, en fait. Et là, la polémique, je pense qu'elle renvoie à des peurs, à des angoisses parfois identitaires. C'est pas le drapeau qu'on va, vous inquiétez pas, on va pas vous retirer le drapeau du Portugal, on va changer le drapeau qui flotte sur les mairies, les drapeaux que vous pouvez porter au stade, etc. Il va pas bouger. C'est juste la signature qu'on voit dans les mails, ou souvent qu'on voit pas, en fait. C'est le logo qu'on voit dans les papiers en tête, c'est juste ça qui a changé. On peut se dire pourquoi ils mettent de l'argent dans ça, mais juste ils veulent actualiser un peu. En France, ça change tout le temps les Mariannes, ça change tout le temps les papiers. Donc, en fait, je pense qu'on est à une période où, notamment avec les réseaux sociaux, ce type de débat sur est-ce qu'on va vous retirer, toucher à certaines choses, ça, évidemment, beaucoup de gens sont contre, parce qu'on est sur ça relativement conservateur. Mais ce que montre l'histoire en historien, on dit ça change. Et ça changera probablement. Moi, à titre personnel, et là, c'est qu'à titre personnel, après, c'est vous qui gérez le courrier des lecteurs, moi, je serais pour qu'on retire la portugaise. En 2023, alors que dans l'Union européenne, où les strophes, c'est aux armes, canoïge, canoïge, machal, machal, c'est un chant de guerre, en fait. La plupart des hymnes, comme la Marseillaise, c'est des chants de guerre. Je crois que Dino Santiago avait proposé de changer, de mettre Golem de Villemolène. Moi, je souscris complètement. C'est une chanson qui parle de fraternité, qui parle de solidarité. On n'est plus en guerre contre l'Angleterre. La portugaise, elle a été composée après l'ultimatum de 1890, quand l'Angleterre a fait pression sur le Portugal pour qu'il cède une partie de ce qu'il voulait être ses colonies, ce qui n'était pas encore ses colonies. Et donc, c'était un chant un peu de guerrier. On est en guerre contre personne. Donc évidemment, après, on est tous habitués, les hymnes nationaux, notamment les hommes et les femmes aussi, les chantent dans les stades, etc. Donc il y a un côté très sentimental. Mais, encore une fois, on peut... Mais ça, ce genre de sujet, on n'arrive pas, ni en France, ni au Portugal, à l'évoquer de façon assez sereine, en fait. Ouais. Prenons les paroles, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça représente vraiment ce que nous, on est en tant que nation? Est-ce qu'on pourrait changer? Mais... En disant ça, je sais très bien que ça ne sera pas le cas, parce que même pour un gouvernement, on le voit, pour un changement de logo, qui, je pense que personne n'aurait vu si on n'avait pas pointé, il y a une polémique. Si le gouvernement, je pense qu'aucun gouvernement dirait on va changer sauf s'il y a un changement de régime, mais on va changer l'hymne national, ça serait trop coûteux.
Voilà ce que ça coûte. Mais après, voilà. Je pense qu'il faudrait voir s'il y a déjà des études qui sont sorties sur d'où... provient cet argent, quoi. Enfin, pourquoi ça coûte aussi cher? Je pense que ce qui coûte aussi cher, c'est pas forcément que le logo en lui-même et le fait de mettre, de comment a été créé le logo, c'est tout ce qui va derrière, c'est-à-dire le changer sur tous les sites, le changer sur toutes les signatures électroniques, sur toutes les enveloppes. Je pense que c'est surtout ça le coût en réalité.
On a une réponse là d'un auditeur qui nous dit que le problème vient du fait que cela a coûté plus de 70 000 euros pour avoir fait un symbole qui a pris que quelques minutes à faire et qui aurait pu être fait par un enfant de 5 ans.
C'est ce que je dis après.
C'est le minimalisme aussi qui...
Oui, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je donne pas mon opinion. Je dis juste que, potentiellement, le coût, c'est pas simplement le logo, mais tout ce que ça engendre derrière comme modification. Quand vous recevez une enveloppe de l'État, il y a le logo étatique, institutionnel. Bah, faut le changer sur toutes les enveloppes. Donc forcément, au bout d'un moment, ça coûte de l'argent. Mais est-ce que vraiment c'est de l'argent qu'on n'aurait pas dépensé de toute façon?
Bah oui, parce qu'à un moment donné, il aura fallu réimprimer des enveloppes avec l'ancien logo, parce que le stock n'est pas illimité.
C'est ce que je me dis.
Ouais. Et je pense surtout le débat, il est entre guillemets mauvais, c'est que dans le sens là, on parle beaucoup de ce changement de drapeau, mais on parle pas vraiment du drapeau, on parle plus de l'argent que ça a coûté.
Oui.
Donc on parle même pas du changement de drapeau, tu vois.
Et puis c'est même pas un changement de drapeau, c'est un changement de logo, donc.
En plus.
Et voilà, encore c'est ce qu'on disait en off. Est-ce que vous allez tous les jours sur les sites institutionnels? Est-ce que vous voyez tous les jours ce changement et vraiment ça vous fait bizarre quand,
honnêtement,
quand TikTok, Instagram font des mises à jour, ça nous fait bizarre quelques jours puis ça passe.
Quelle mise à jour? Parce que le logo Twitter X,
ça fait encore bizarre.
Je le vis mal encore.
Mais vous allez vous habituer.
Si t'avais pas parlé de ce changement, je te jure, j'aurais très bien pu aller sur le site et voir le nouveau logo sans m'en rendre compte qu'il avait changé.
Bah voilà.
Ça m'aurait même pas surpris, j'en suis presque sûr. Maintenant je le sais, donc forcément je suis influencé, mais ça m'aurait pas choqué. Au final, c'est les mêmes couleurs que le drapeau, il y a juste mon détail.
Oui.
Tu sais, comme vous dites, quand on sur une appli ou sur la télé, en fait, si vous regardez les logos TF1, France 2, ils changent tout le temps. Ils changent relativement fréquemment parce qu'il faut se moderniser, il faut changer d'image. Et au début, ça nous fait bizarre. Et au bout d'un moment, on oublie complètement qu'il a changé. Et quand on voit l'ancien, on dit, mais il était vraiment nul, l'ancien.
Ouais.
Y a plein de choses. Et donc là, les autorités portugaises ont décidé de le faire. Il y en a peut-être, je m'en rappelle pas, il y en a peut-être des anciens qui ont changé. Et à l'époque, ça n'avait pas posé de questions. Et je pense que dans 3-4 ans, plus personne ne fera attention et on lui trouvera des trucs. Et après, ce que disait l'auditeur, ça me rappelle les gens qui critiquaient Picasso en disant « Ouais, mais un enfant pourrait faire ça. » Et ils disaient « Ouais, mais moi, ça fait 50 ans que je peins, quoi. » J'arrive parce qu'il y a tout un travail préalable.
Oui,
évidemment,
oui,
ça paraît ultra simple à faire, mais j'imagine qu'ils ont fait plein d'essais, qu'il y a plein de choses qu'ils ont écartées, etc. Donc, je ne suis pas là pour le défendre non plus. Mais souvent, ça a l'air simple, mais parfois, la simplicité exige du travail.
C'est ça.
Prend du temps. Et justement, dans ce nouveau logo institutionnel, il y a deux couleurs qui sont restées, donc le rouge et le vert. Pourquoi justement ces deux couleurs-là sont venues remplacer le blanc et le bleu de l'ancien drapeau, si on monte une décennie en arrière?
En fait, c'est 1910, comme je vous le disais, donc la République s'installe après une révolution le 5 octobre, et très vite, les républicains veulent changer le drapeau, et veulent changer les couleurs, donc blanc et bleu, ils n'en veulent pas parce que c'est la monarchie. Et donc le vert, pourquoi le vert, c'est la couleur de la République, c'est la couleur de l'espoir, avec l'idée que la République, ils voulaient régénérer le Portugal, le transformer après ce qu'ils considéraient être le chaos ou la dégénérescence liée à la monarchie. Et le rouge, c'est une image qui disait viril, parce que c'est quand même des hommes qui dirigent à l'époque, il n'y a pas de femmes. Le rouge est donc viril et le sang qu'on est prêt à verser pour défendre sa patrie. Donc en fait, c'était ces valeurs liées à la fois à la virilité et à l'espoir de la République.
Et le jaune, donc, au milieu, qui est lié à la sphère arménienne, donc les conquêtes maritimes.
Tout à fait. Les républicains, sur ça, ils n'étaient pas du tout anticolonialistes. Au contraire, ils ont récupéré... donc, les châteaux, c'est pour la conquête de l'Algarve, donc au-dessus du Portugal, au cours du XIIIe siècle. Et les Kinnes, c'était lié à une légende de la bataille d'Ulik, où cinq princes arabes seraient morts. Dans une bataille dont on ne sait pas qu'elle existe, on ne pense pas qu'elle existait, mais c'est parti de toutes les légendes. Et ça, les républicains, ils n'ont pas complètement coupé avec ce legs médiéval et des grandes découvertes.
Mais de toute façon, ce n'était pas de l'époque. Ce n'était pas la mentalité de l'époque de couper avec tout ça.
Mais ils voulaient couper avec la monarchie.
Bien sûr, ça c'est normal.
Ils ont gardé les légendes, etc.
Ils ont gardé.
Ça fait partie de l'histoire du Portugal. Quoi.
Mais la monarchie, eux, ils ont coupé
ça,
blanc
c'est
et
normal.
Bleu. Mais il y a eu un débat à l'époque.
Ah bon?
Et certains disent non, il ne faut pas changer de drapeau, il faut laisser le drapeau tel quel, etc. On ne change pas au drapeau. Dès cette époque-là, maintenant ça nous paraît naturel, on a l'impression que le drapeau il est vieux comme dans Enfance Eric. C'est pas du tout le cas en fait.
1910.
Les choses changent.
Et moi qui pensais que le petit rond jaune c'était un soleil.
Il est mignon. Merci Victor pour tes précisions et tes explications. On va écouter la musique de Barba Vandeira et Ivandro Kumutu. C'est la musique la plus écoutée sur Spotify au Portugal en 2023. Et on reviendra juste après pour la rubrique de Julie, Os Cadernos de Julie. A tout de suite sur Radio Alpha.
Em ti, não vejo um futuro contigo. O meu coração tá partido. Vai encontrar alguém como tu, como tu, como tu. Vai encontrar alguém.
resultado, mas sei que é isso que eu quero. A vida é mesmo assim, aprendi com os meus erros. Só costumo cobiçar aquilo que eu não tenho. Agora que foste embora, vejo o meu empenho. Foste embora, mas tu levaste um bocado de mim. Nossa história não é de agora, então não acaba aqui. Como é que é suposto um gajo equilibrar-se assim? Estás-me a fazer tanta falta que hoje eu não dormi. Sinto saudade, sinto saudade. Desculpa ter aparecido, devia ter ligado. Senti saudade, sinto saudade. Desculpa ter aparecido e não ter avisado.
Já não faz sentido, não vejo um futuro contigo. O meu coração tá partido, vai encontrar. Esse é o teu ponto fraco, é a minha promoção. Meu corpo é dose de caos na tua calça. E tu não podes tocar, é a tua calção. Reações nas tuas calças. Baby, dá para ver que o teu corpo não está de acordo. Tu disseste que eu dava trabalho a mais. Olha quantos voluntários querem trabalhar agora. Como tu querem meter na prática. Tu investes a ficar vingativa. Então este é a minha after party.
Sentir, não vejo um futuro contigo. O meu coração tá a partir.
Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai. Sinto saudade.
Et c'est l'heure de la rubrique de Julie, une rubrique en portugais qui vous permet de vous replonger dans la langue portugaise et de découvrir aujourd'hui un livre de Teresa Fernandes. Julie, como é que conheceste este livro?
Sinceramente, como a maioria dos livros que eu apresento no Instagram.
Okay.
Mesmo no Instagram, eu conheci a Teresa Fernandes, que está a ouvir-nos, beijinhos, Teresa, no Instagram. Mas antes de começar, como voltamos aos livros hoje, vocês sabem que eu adoro, eu tenho uma pergunta para vocês, os quatro. Gostam de histórias de amor?
Sim.
Mais ou menos, mas o Spotify disse... Diz-me esta semana que eu era romântico.
Ah, pronto.
Eu não sabia, mas que eu hoje visto sou romântico. O Spotify é que diz nunca bom. Se engana, então vamos dizer que sim.
Eduardo?
Pareil aussi. Dessa história d'amour.
Também és romântico.
Oui.
C'est ton adore.
E Vitor?
O Spotify não me disse nada, mas acho que sim. Acho que eu gosto.
Eu acho que a pergunta certa é mais quem não gosta de histórias de amor. Mas que tipos de histórias de amor têm o hábito de ler, ou ver, ou ouvir? Não?
Nenhuma. Nenhuma.
Então, és romântico ou não és?
Eu não disse que era, quem disse foi o Spotify. Não costumo nem ler, nem vir, nem nada, nem ver, nem nada, fora os telefilmes do Natal que passam sempre.
Pronto!
Porque são quase todos histórias
então,
de amor.
Então, gostas do Natal?
Só gosto dos filmes.
Já não, é muito.
A quase todas todos os filmes do Natal são histórias de amor.
Claro, claro.
Acabam sempre bem.
E tu, Vitor?
Sim, histórias de amor, mas que obviamente acabam mal.
Que acabam mal?
Sim, obviamente.
Não tem piada.
Os treinadores gostam de coisas dramáticas.
Ah, ok, mas essa história é um bocado dramática. Podes gostar. Hoje vou falar então de uma história de amor. Já perceberam? Mas primeiro deixa-me apresentar a autora Teresa Fernandes. Ela era realizadora, na verdade. Ela passou um tempo em Nova York onde trabalhou num teatro. E quando voltou à França, encontrou Paulo Branco em Cannes. Não sei se conhece, mas Paulo Branco é um grande produtor português que produz longas metragens, mas aceitou produzir a curta-metragem de Teresa na mesma, que é Un Silence Blanc. Prometeu escrever uma longa-metragem para Paulo Branco, mas finalmente decidiu escrever para ela. E o primeiro livro do qual vamos falar é o seu primeiro romance. Chama-se Le Mariage Maya. O que acham do título? Dá vontade?
Dá vontade de conhecer, sim.
Eu raramente um título me dá vontade de ver alguma coisa. Eu gosto mais de ter o livro na mão, de ver as fotografias, as capas e o... É tudo, não é só o título. Não vê lá se me dás vontade.
Mas tem uma ideia do que pode falar a história. E conhece aí alguns ritos maias, porque, claro, fala um bocadinho disso.
A única maia que eu tenho agora na mente é a abelha maia e dos cereais que eu comi quando era pequeno, fora disso.
Já é bem.
Mas cá para mim não tem nada a ver com isto.
E tu, Vítor, que és historiador, conheces um bocadinho os maia ou nem por isso? Só os portugueses?
Só os portugueses, não. E só os portugueses do norte. Não, dos maia nem tanto. Tenho algumas imagens que vêm de alguns filmes, algumas leituras, mas não muito.
Pronto, tens que ler o livro então. A história começa em Deauville. Toda a gente conhece Deauville,
que
no norte da França.
Conhece melhor Deauville que as maias.
A personagem principal encontra lá um fotógrafo, pois, carismático, bonito, etc. O homem perfeito. Ele é apaixonado pela sua arte e tenta seduzi-la e acaba por conseguir, claro. Finalmente, os dois casam-se e vão em viagem de mel no México. E é lá que se vão unir durante uma cerimónia tradicional maia. Desde lá, os problemas começam. Podem acreditar nisto ou não, mas segundo os mitos maias, os casais que se unem nestas cerimónias nunca mais podem separar-se. Acabam por ser unidos até à morte. Dá medo, não?
Medo não, é supostamente é, quando casas não é para divorciar depois.
Sim, mas isso não é uma... A ideia dos mitos maias é que mesmo se estás a divorciar, não vais conseguir.
Eu concordo com eles.
Ok, é pronto.
Bem, é para bem e para mal.
Pronto, está bem. Mas conseguem imaginar o problema? O problema é que o marido da jovem mulher acaba por revelar-se não ser aquele que ela pensava, claro. É um homem ávaro, tirânico e manipulador. Aliás, há alguns dias falamos das mulheres que viviam violências conjugais. É o caso. E como é que se pode liberar dessa relação, ainda mais por serem unidos no México? E eu não vou dizer. Vocês têm que ler o livro. O que é que acham?
Agora já dá mais interesse.
Pronto, já sabia.
O título pode ser tudo e pode ser tudo e mais alguma coisa, mas agora com esta história, com este conhecimento, já dá mais vontade de conhecer o fim. Será que eles vão conseguir escapar aos maia e divorciar, separar-se ou não?
Ou não, pronto.
E ele mudar, talvez.
Talvez.
Talvez. Pronto, este livro é uma mistura saborosa de uma história de amor com manipulação e mitos maias. E para aqueles que não gostam muito de ler, sei que é o caso de alguns aqui, não se preocupem, são só de 217 páginas, mas lê-se muito bem e rapidamente. A escrita de Teresa é muito fácil e agradável. Não hesitem em ler também as opiniões dos leitores nos sites como Amazon, Babilio, etc. São todos muito positivos e resumem bem a obra. Mas agora deixo-vos com a mensagem de Teresa.
Chers auditeurs, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous. Tout d'abord, un grand merci à Julie pour cette belle chronique. Et en effet, le roman s'articule autour de deux thèmes, l'emprise amoureuse et le chamanisme. J'ai voulu écrire sur ce sujet pour montrer qu'une femme peut se libérer d'un pervers manipulateur, d'une situation qui semble a priori inéluctable, et même grandir de cette expérience. Le choix de ne pas donner de nom à mon héroïne est un moyen pour en faire un personnage universel. Seul le chaman porte un nom, Santos, et là aussi c'est voulu bien sûr, c'est celui qui a les clés pour lui permettre de se libérer. J'ai écrit ce récit comme si je filmais cette femme caméra à l'épaule. Je la suis du début jusqu'à la fin du récit. Et enfin, une petite anecdote qui n'est pas banale. Le premier texte que j'ai écrit et qui a donné naissance à ce roman est devenu l'épilogue. Le livre se termine sur ce texte. Il y a bien sûr un clin d'œil au Portugal dans le premier chapitre que je vous laisse découvrir. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture.
Muito obrigada, Teresa. E então resumimos, como sempre, Le Mariage Maya, de Teresa Fernandes, na editora Librinova, disponível em todo lado. E para aqueles que podem esperar um bocadito, lançamos um concurso esta segunda-feira nas nossas redes sociais. Vão poder ganhar dois exemplares, ou seja, dois vencedores, com uma pequena assinatura dedicada para aqueles que gostam. Não hesitem, então.
Obrigada, Julie, et merci à Teresa Fernandez pour son message dans Thermostat 2.1. Merci à vous d'être avec nous et de nous écouter ce samedi 2 décembre sur Radio Alpha. N'hésitez pas à participer au concours, donc sur nos réseaux sociaux. On s'écoute Fic de Domingos avant de se retrouver pour la deuxième heure de Thermostat 2.1. A tout de suite.
E se não for para sempre, nós vivemos o agora. Foste o meu maior presente, fazendo-me ir embora. Contigo o tempo passa, eu nem dou conta. Olhos nos olhos, arrepio-me de ponta a ponta. E é verdade, o teu amor fez-me sócio. E na cabeça eu organizo momentos em portfólio. Já nem ouço os ponteiros do relógio. Mas neste caso o barulho é a alma do negócio. Tic-tac, não se ouve o tic-tac. Com a tua voz por cima e as paredes já não falam que é para não estragar o clima. Apaga a luz e fica a vela. Acomoda a Vinci, Mona Lisa numa tela. E essa miúda realiza tudo o que eu desejar. Porque ela sabe o que eu desejo sem eu ter de falar. Eu já não estou a gostar, ou estou a gostar demais. Tão bom não dura para sempre. Por favor diz que não vais, que não sais do meu lado. Porque eu agora já estou mais que habituado. Que habituar, yeah. Tu és a miúda que me faz correr pelos meus sonhos sem olhar para trás. Se for para passar, vamos viver vida sem planos. E se for para ficar, que seja cá por casa. Encosta no meu peito e o meu tronco abraça. Só não provoques danos. Fica lá mais uns anos, tu fica lá mais uns anos. Se não for para ser para sempre, eu prometo desta vez vai ser tudo tão diferente. Põe a mão no coração, sente só a pulsação. Acelera o pé de ti, acredita, ela não mente. E eu vou fazer tudo para te ver com um sorriso na cara. E acredita, dou-te um mundo e outro. Não é aí que isto para, porque eu tive a minha vida toda à tua procura. E tu vieste para levar toda a mágoa e a amargura. O meu coração desfeito finalmente encontrou cura. E agora o nosso amor é a única cena que perdura. Esta sensação tão pura. Tu és a única com a capacidade de mexer comigo. E que me faz duvidar se é para ser só a mim. Não sei se é fruto da idade, mas tanta cumplicidade faz-me pensar no futuro e que seja contigo. Porque eu só quero mais e mais e mais. Yeah, yeah, tu és a miúda que me faz correr pelos meus sonhos sem olhar para trás. Se for para passar, vamos viver vida sem planos. E se for para ficar, que seja cá por casa. Encosta no meu peito e o meu tronco abraça. Só não provoques danos. Fica lá mais uns anos. Tu és a miúda que me faz correr pelos meus sonhos sem olhar para trás. Se for para passar, vamos viver vida sem planos. E se for para ficar, que seja cá por casa. Encosta no meu peito e o meu tronco abraça. Só não provoques danos. Fica lá mais uns anos.
Tempo está.
Cidade 2.1.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
15h05, merci d'être avec nous sur Tempestade 2.1. Victor Pereira, historien spécialiste du Portugal au XXe siècle, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, chercheur à l'Institut d'histoire contemporaine de l'Université Nouvelle de Lisbonne, est avec nous. Tout va bien, Victor ?
Tout va très bien.
Super, on est
ravis. J'ai pas été mauvais au blind test, donc je suis assez content.
Voilà, et Tony n'a pas parlé de Benfica.
Si, il en a parlé.
Si, j'en ai parlé, mais l'actualité l'a voulu. J'en ai parlé du sportif aussi.
Mais il en a parlé de façon journalistique et donc neutre.
J'ai été droit dans mes bottes.
Et dans ce qu'il a dit hors antenne, parce qu'il faut savoir les visiteurs qu'il y a hors antenne. Et j'en dirai pas plus. Mais il a dit des choses pas très belles.
Voilà, on va sur le hors antenne.
Ils vont repartir fâchés.
Non.
Alors, Victor, chaque semaine, Tony nous propose de découvrir un ou une artiste.
Voilà, on parle pas de foot, là, c'est
voilà,
bon.
Voilà, on parle pas de foot. Un moyen d'en savoir plus sur les différents artistes qui font vivre la musique lusophone à travers le monde. Et ce samedi, il nous parle de Jade Baraldo.
C'est gentiment présenté parce que oui, l'heure est venue de vous présenter l'une des voies à suivre de ces prochaines années. Jade Baraldo, comme tu l'as si bien dit, cette Brésilienne de 25 ans, commence à se faire un nom de l'autre côté de l'Atlantique et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler. Comme ça, le jour où elle explosera internationalement, vous pourrez dire, moi, je la connais.
Grâce à Tony.
Et ouais, ça, c'est pas obligé, mais tant qu'à faire. Bah si je peux me faire mousser en plus, allez, bon, c'est pas moi qui vais vous arrêter. Et Jade vient de publier son tout dernier projet, un EP de 5 morceaux intitulé Infâme, mais je vous rassure, il en a que le nom. Prova en musique avec Sabutal.
Você não quer pagar pra ver o que vai acontecer. Eu tô na minha, mas não tô sozinha, não. Vou bater na sua casa, vou quebrar a sua cara, vou sujar o seu nome. Sou a mosca no seu prato e a pedra no sapato. Eu vou sabotar, eu vou sabotar. A ferida vai arder na pele e vai queimar. A ferida vai arder na pele e vai queimar. Eu vou sabotar, eu vou sabotar. O veneno vai correr, você vai me pagar. O veneno vai correr, você vai me pagar. Quer pagar pra ver o que vai acontecer? Eu tô na minha, mas não tô sozinha. Vou bater na sua casa, vou quebrar a sua cara, vou sujar o seu nome. Sou a mosca no seu prato e a pedra no sapato. Eu vou sabotar, eu vou sabotar. A ferida vai arder na pele e vai queimar. A ferida vai arder na pele e vai queimar. Eu vou sabotar, eu vou sabotar. O veneno vai correr, você vai me pagar.
La petite Jade est née à Sainte-Catherine et a commencé à écrire ses propres chansons à 16 ans à peine. Et comme beaucoup d'artistes de la jeune génération, Jade Baraldo a été propulsée sur le devant de la scène grâce au télécrochet The Voice au Brésil. C'est il y a 6 ans déjà et ça a permis à la jeune chanteuse de se faire connaître. Elle a commencé par sortir des reprises du Lana Del Rey, tout particulièrement, avant de se jeter dans le grand bain et de proposer au public, à son public, ce qu'elle est vraiment, ce qui la représente vraiment, donc de la douceur, un rythme décalé et de belles paroles. Un mix que l'on retrouve parfaitement d'ailleurs dans son morceau Brasa.
de loucuras. Me perco entre tantas figuras, fantasiadas, descartadas, descartáveis. Mas isso só não me sustenta. Todos os teus sinais, sedenta, desfrutando dessa insana liberdade. Silêncio no ambiente, a brasa fresca queima.
Jade Baraldo a son propre univers, identifiable parmi des milliers, et ça commence à plaire de plus en plus au Brésil. Ses meilleurs singles atteignent des millions d'écoutes, voire des dizaines de milliers d'écoutes pour certains. Et elle compte un album au compteur, Mais Que Os Olhos Podem Ver, sorti en 2019, et son EP, sorti hier, donc Infâme, est venu compléter la liste. On a commencé par l'une de ses toutes dernières chansons, on va terminer par l'une des premières, Sua Alegria Foi Cansada, qui est sa toute première collaboration, c'était avec Fresno.
Merci Tony, en tout cas, pour cette très très belle découverte. On se retrouve juste après la musique et une courte pause pour l'interview de l'historien Victor Pereira. A tout de suite.
Outra noite sem sorrir. Ouvi que se eu não desistir vai passar. Que se eu não pensar muito vai sumir. Conforme o tempo passa vai sarar. Que se eu fechar os olhos não tá mais aqui. Descansada. Acordei no meio da madrugada.
parti pour l'interview de Termstadt 2.1. Victor Pereira, qui est avec nous, est historien spécialiste de l'histoire du Portugal au XXe siècle. Tu as publié récemment l'ouvrage « C'est le peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976 ». On va en parler, mais avant, parlons un peu de ton travail d'historien. Tu mènes des recherches sur les migrations portugaises, un sujet évoqué plusieurs fois dans cette émission. Est-ce que tu trouves que c'est un sujet où on manque parfois de documentation, d'informations ?
Alors moi je passe ma vie dans les archives, dans les bibliothèques, et dans les archives, dans les bibliothèques, il y a beaucoup de documents sur l'immigration portugaise, soit à partir de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, soit jusqu'à... Alors nos jours on peut pas accéder aux archives maintenant, mais maintenant on peut faire des entretiens, il y a la presse, il y a un ensemble de documents, mais sur ça il y a beaucoup de documents. Après ce qu'on peut dire c'est qu'il y a pas encore... Il y a des recherches qui ont été menées sur plein de phénomènes différents, sur... les luso-descendants, sur l'insertion dans le monde du travail des Portugais et des Portugaises, sur la vie associative. Mais il y a encore très largement de nombreuses études à faire.
Mais tu trouves qu'il faut quand même passer pas mal de temps donc, dans une bibliothèque pour trouver ces infos. C'est-à-dire que, voilà, en tant que notamment jeune, est-ce qu'on n'a pas un peu plus de difficultés à s'informer sur ces sujets-là ?
Après, vous pouvez, maintenant, il y a un accès à l'information qui est assez incroyable par rapport... Alors moi, je suis un peu plus vieux que vous. Mais maintenant, vous avez des sur Internet, vous avez soit des chercheurs qui mettent directement leurs travaux sur Internet, sur des sites. Mm-hmm. Soit il y a un site qui s'appelle Cairn, où toutes les revues françaises sont en ligne. Et souvent, quand vous appartenez à une fac, donc vous ne payez pas l'article, vous pouvez le télécharger. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez lire gratuitement. Et moi, il y a parfois des gens qui me contactent parce qu'ils ont lu l'article que j'ai fait sur ça. Et donc... Souvent, il y a des gens qui me contactent parce qu'ils aimeraient bien ça, en savoir plus sur leurs grands-parents, sur parfois leurs arrière-grands-parents. Et c'est par ce biais-là qu'ils me contactent. Donc, il y a beaucoup d'informations. Après, il y a des...
Il n'y a pas des sites d'archives en ligne aussi qui sont disponibles maintenant ?
Enfin, moi, j'en utilisais pas mal en prépa des archives en
ligne. Oui, bien sûr. Il y a pas mal d'archives qui sont en ligne. Il y a des... par exemple, l'aspect de la Contemporaine qui a mis beaucoup de choses en ligne. Il y avait une association plus générique. Les journaux des années 60-70 sont en ligne. Il y a le gros site de la BNF Gallica. Vous pouvez lire tous les journaux si vous pouvez chercher un nom. Donc, ça remonte qu'aux années 60. Et donc, maintenant, il y a une capacité à trouver des documents qui est incroyable par rapport à quelques années. Et notamment, ça permet... Moi, parfois, je suis contacté par des gens qui veulent faire un peu leur généalogie. Et maintenant, au Portugal, tout ce qui a trait à l'état civil, on peut facilement retrouver assez facilement un acte d'extrait de naissance de son arrière-grand-père, de son grand-père. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour détecter, identifier des personnes de sa famille.
Et comment, quelles sont tes missions en tant qu'historien, au-delà de transmettre le savoir, les récits de l'histoire ?
Quand j'étais maître de conférence à Pau, je le suis plus depuis 2 ans, mais je le redeviendrai, il y a une partie de notre travail, c'est enseigner, donc faire des cours. Alors, moi, je fais assez peu sur l'histoire du Portugal, mais l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France, l'histoire de l'État. On a aussi... Donc, de faire de la recherche. Donc, en histoire, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique d'aller aux archives, de retrouver des documents, et d'écrire des articles, d'écrire des livres. Et après, souvent, ce qu'on fait, c'est, la transmission. On participe à des colloques, on participe à des conférences, pour que notre savoir, c'est pas juste pour nous, c'est pour que ceux qui considèrent que ça va être utile ou éclairant, ou juste parce qu'ils sont curieux, puissent connaître ce qu'on fait.
Et cette année, on célèbre le 50e anniversaire de la révolution des œillets, le 25 avril 2024. J'imagine que c'est aussi pour cette raison que tu as publié ton nouvel ouvrage « C'est le peuple qui commande la révolution des œillets 1974-1976 ».
Oui, évidemment, je me suis dit qu'il y avait une des commémorations qui allait venir, il allait avoir un intérêt. Notamment, moi, ce que je voulais faire aussi, c'était un bouquin qui puisse être lu par des personnes qui n'ont pas de lien avec le Portugal, donc des Français, donc une maison d'édition franco-française, pour connaître cette révolution qui a été un moment important dans l'histoire du Portugal, mais aussi dans l'histoire de l'Europe et du monde, parce qu'il y a eu des incidences en Afrique avec la décolonisation. Et donc, je me suis dit, oui, il y a que maintenant que je vais avoir le temps et la possibilité de faire un bouquin sur cette révolution sur laquelle j'avais déjà un peu travaillé, donc, et qui aurait un intérêt. Souvent, les publications et la couverture médiatique dépend des éphémérides.
Et 50 ans après la fin de la dictature, qu'en est-il du devoir de mémoire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, moi, je défends pas le devoir de mémoire. La mémoire, en fait, c'est les gens, ils retiennent ou ils retiennent pas. Et c'est pas aux historiens de dire ce qu'ils doivent retenir ou pas retenir, en fait. Nous, à la limite, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les gens retiennent ou ne retiennent pas certaines choses. Après, la classe politique, elle, il y a d'autres enjeux hein, qui ne sont pas ceux des historiens, qui est... en plus, là, ça va prendre une incidence importante, parce que bon, ce n'était pas du tout prévu, ça s'est fait il y a quelques semaines seulement. Le 10 mars 2024, il va y avoir des élections, quelques jours seulement, quelques semaines avant les élections. Et un des enjeux de ces élections, au-delà de savoir si, qui va gagner, c'est notamment le poids que va avoir le parti d'extrême droite, Chég. Et il y aura une certaine ironie, alors que pendant quasiment 45 ans, l'extrême droite a été inexistante au Portugal, parce qu'au Portugal, il y a eu 48 ans de dictature, donc les gens savent ce que c'est que l'extrême droite. D'autre part, il y a une révolution qui, d'un jour à l'autre, a fait tomber la dictature, et donc il n'y avait pas de parti vraiment salazariste qui a pu perdurer. Ça, c'est la différence avec l'Espagne, où les franquistes n'ont pas disparu complètement du champ politique et sont restés, et donc on continue à défendre jusqu'à nos jours. Franco, au Portugal, il y a une rupture franche et nette, et donc pendant 45 ans, l'extrême droite était quasiment inexistante, et là, depuis quelques années, elle a des résultats électoraux, et donc un des enjeux de ces commémorations, ça va être le récit que les élites dirigeantes portugaises vont porter sur la révolution, sur la période révolutionnaire, et qu'est-ce que la démocratie et comment il faut continuer à faire vivre la démocratie au Portugal. Il y a souvent tout un discours, c'est des mots comme des expressions comme « c'est pour ça qu'on a fait 25 avril » ou « il faut faire perdurer les idées, les valeurs du 25 avril ». Et donc ça va être un des enjeux importants des commémorations de l'année prochaine et des commémorations qui vont durer jusqu'en 2026.
Et là justement, tu parlais de la politique, tu parlais d'Ouché que tu as cité. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre actuellement un retournement peut-être de situation, de reculer en arrière avec la montée de l'extrême droite, comme tu l'as pu le dire juste avant?
Ce qui est étonnant, pendant 45 ans, mais du moins dans les 20 dernières années, le Portugal, quand on demandait les médias français, une des questions qu'ils me posaient, c'est mais pourquoi il n'y a pas d'extrême droite au Portugal? Ou pourquoi l'extrême droite n'est pas importante au Portugal? Pourquoi il n'y avait aucun député? Alors en France, on a eu maintenant Marine Le Pen qui est systématiquement en deuxième tour. Là, on a vu les résultats aux Pays-Bas. On a vu, bon là, c'est hors de l'Europe, mais en Argentine, la victoire d'un candidat d'extrême droite, Trump, Bolsonaro, etc. Et le Portugal, dans un monde où l'extrême droite, avec des idées xénophobes, populistes, de rejet de l'autre, monte. Le Portugal était une sorte de îlot où, d'une part, les partis d'extrême droite avaient très peu de résultats, et où même le Portugal avait un discours... Il y a très peu de discours xénophobes au Portugal, du moins publiquement. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Portugal et qu'il n'existe pas, mais notamment le Portugal, quand il y avait des questions autour des réfugiés, le Portugal prenait toujours sa part. Et depuis plusieurs années, le Portugal est aussi un pays d'immigration. Et effectivement, depuis quelques années, donc ce parti d'extrême droite obtient de meilleurs résultats, a une couverture médiatique beaucoup plus importante, et autour de thématiques sur, bon là, on va beaucoup l'entendre, sur la corruption, mais aussi un discours xénophobe qui a surtout touché les populations gitanes, c'est la première cible du parti, mais qui touche un peu... plus largement avec une remise en cause de la politique d'immigration telle qu'elle est menée par le Portugal.
Et dans ce livre-là, donc, tu parles également de politique, des stratégies mises en place, et tu proposes une vision renouvelée de la révolution des œillets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres livres qu'on peut avoir sur la révolution?
On espère toujours, quand on fait un livre, apporter quelque chose de nouveau. Et là, ce que j'ai voulu faire, c'est que souvent, dans les bouquins sur la révolution, soit on traite plutôt des élites politiques, Mario Suarez, Alvaro Cunhal, soit plutôt des militaires, Otello, Spinola, ou plutôt des mouvements sociaux, ou plutôt comment ça a été un enjeu pendant la guerre froide, et qu'on a craint que le Portugal change de camp et passe du camp occidental à soit la neutralité, soit le camp communiste. Et moi, j'ai essayé de prendre tout et de tout traiter ensemble avec des archives qui étaient peu traitées, donc soit au Portugal, soit en France. Et... ça se trouve dans le titre, je voulais aussi faire attention à comment le peuple, et avec une vision qui n'est pas une vision mythifiée du peuple, souvent quand on parle du peuple, on parle beaucoup d'histoire populaire, c'est souvent une vision plutôt de gauche, avec le peuple ouvrier, plutôt de gauche. Là, ce qui est intéressant avec la révolution des œillets, c'est que le peuple intervient dans la politique, occupe des maisons, occupe des terres, occupe d'usines, revendique, mais aussi il y a une partie de la population... le plus grand, quasiment, événement de la période révolutionnaire, c'est les élections du 25 avril 1975. C'est la première fois qu'il y a des élections libres au Portugal, et 92% des électeurs vont voter. Ça ferait rêver tout le monde maintenant que 92% des personnes aillent voter. C'était la première fois que, pour la plupart des gens, ils pouvaient voter. Et donc, les gens se sont saisis de la politique. Et c'est ça, la démocratie. C'est que les gens participent activement, mais aussi essayer de changer la vie quotidienne, les rapports hommes-femmes, comment on éduque les enfants, comment les loisirs et tout. Donc, c'était une révolution sociale et culturelle. Et c'est ça que j'essaie de mettre en avant dans le bouquin.
Là, tu viens de citer 92% donc de vote. Qu'en est-il des Portugais qui étaient en France à ce moment-là? Quel est le rôle qu'ils ont joué justement dans la chute du Estado Novo et dans l'après?
Donc, dans les années qui précèdent la Révolution, il y a environ 900 000 Portugais dans les 15 années qui précèdent. Il y a 900 000 Portugais qui sont en France. Ce qui est considérable, parce qu'il faut vraiment avoir en tête qu'il y avait un peu moins de 9 millions de Portugais à l'époque. Donc, c'est-à-dire que 10% de la population vit en France et parfois clandestinement, régulièrement, donc au péril de la vie des personnes, et qu'ils vivent notamment en région parisienne, là on est à Créteil, dans l'Est parisien, et dans d'autres régions comme Clermont-Ferrand, mais dans des conditions de vie assez difficiles, notamment dans les bidonvilles. Tout le monde n'est pas passé par les bidonvilles, mais beaucoup sont passés par des logements assez précaires, et avec des emplois difficiles, notamment dans le bâtiment, en bas de l'échelle, et donc ensuite il a fallu monter. Et ça, ça a été, pour moi, je le dis dans le livre, c'est pas ça qui a fait la révolution. Mais ça montrait bien que les années précédentes, une grande partie de la population refusait le modèle de vie que la dictature met en avant. Salazar, notamment, donc celui qui est le Premier ministre, il défendait la pauvreté honorable, que les gens vivent de peu, l'agriculture. Mais en fait, ce que ça cachait, ce discours, c'était une vie de misère et une incapacité à offrir une meilleure vie à ses enfants. Et donc, beaucoup de Portugais ont préféré désobéir en partant irrégulièrement du Portugal pour venir en France.
Notamment pour des raisons économiques aussi.
Économiques et politiques, parce que souvent les deux sont liés, en fait. Parce que si vous viviez, si les gens n'avaient pas de bons salaires, c'est aussi le résultat de choix politiques. On préférait privilégier les grands propriétaires de terres ou les industriels. Tout à l'heure, on a parlé de tout le dossier dont Julie, les parents viennent. C'était des usines à côté de Covilhã, dans une région montagneuse où beaucoup de femmes travaillaient dans les filatures. Mais à l'époque, ces femmes pouvaient pas revendiquer de meilleurs salaires. Elles étaient contraintes de travailler beaucoup. Si elles protestaient, elles pouvaient être arrêtées.
Elles
étaient analphabètes aussi. Il y avait une sorte de droit de cuissage très souvent, c'est-à-dire que les patrons étaient tout puissants. Et ça, évidemment, si tu pars, c'est à la fois économique, tu veux des meilleurs salariés, mais c'est aussi toute une ambiance de surveillance, de pas pouvoir défendre tes droits, qui sont eux extrêmement politiques. Et donc tout ça, le fait que les gens soient partis, notamment certains militaires l'ont dit ensuite. C'est-à-dire qu'ils sentaient bien qu'une partie de la population avait voté avec les pieds. C'est-à-dire qu'ils étaient partis, qu'ils défendaient plus le régime. Et que le régime était plus soutenu par une partie de la population. Et donc, c'est pas ça qui a fait le coup d'État en tant que tel. Ce qui a surtout fait le coup d'État en tant que tel, c'est que l'armée en avait assez de mener une guerre en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, depuis 13 ans. Une guerre dont ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas vraiment la perdre, sauf peut-être en Guinée, mais qu'ils n'allaient pas la gagner. Parce que tu gagnes pas une guerre contre des mouvements de guérilla. Les États-Unis, mais plus grande armée au monde, a pas gagné au Vietnam. Donc comment le Portugal allait gagner? Donc ils en ont assez. Ils espèrent que trouver une solution politique, mais le dictateur, Marcel Caetano, qui a remplacé Salazar en 68, refuse toute solution politique, et c'est ça qui va amener le 25 avril.
Et comment se fait-il donc que le MFA, le mouvement des forces armées, ait réussi à rester aussi discret sur cette opération du 25 avril? Comment ça s'explique?
Il n'a pas été aussi discret que ça, en fait. Le MFA, donc c'est donc d'abord le mouvement des capitaines, qui devient le MFA, le mouvement des forces armées. Au début, les rencontres des capitaines, à partir de septembre 73, c'est pour des enjeux corporatifs. C'est notamment, l'armée manque d'officiers, et donc on essaie de créer une carrière pour les jeunes gens qui n'ont pas fait l'école militaire, pour qu'ils restent au sein de l'armée, parce qu'on manque cruellement de capitaines pour quadriller les colonies et diriger des compagnies. Donc ça, c'est le grand problème. Et ces capitaines, au début, sont outrés. Notamment, ils disent, on veut créer des capitaines éprouvettes, etc. C'est contre notre intérêt, c'est contre nos carrières, c'est contre notre honneur, c'est contre nos valeurs, etc. Mais après, certains d'entre eux, très vite, ça sort de ce cadre-là pour devenir quelque chose de politique. On en a assez de la guerre. Et après, on en a assez de la guerre. Le seul moyen d'arrêter la guerre, c'est de mettre à bas la dictature. Et donc, ces différents capitaines se réunissent, il y a plusieurs rencontres, à Óbidos, à Cascais, à Costa Caprica, il y a plusieurs rencontres. Et en fait, ils font pas ça de façon aussi discrète, parce que ils font circuler des pétitions, ils font circuler des circulaires. Sauf qu'en fait, il était impossible pour la dictature et la police politique de les arrêter, parce que si tu les arrêtes, à un moment, les capitaines avaient menacé de tous démissionner en nombre. Et donc, pour le gouvernement, si les capitaines qui étaient le socle de la guerre telle qu'elle était menée en Afrique démissionnent, bah on ne mène plus la guerre. Et donc, c'est le collapse, l'effondrement de l'armée, en fait. Donc, à un moment, ça, les capitaines se sont rendus compte. Ils sont trop importants dans l'effort de guerre militaire pour qu'on puisse vraiment les réprimer. Donc, ce que tente de faire la dictature, c'est d'en muter certains. Certains sont mutés aux Açores. D'autres sont arrêtés après une première tentative de coup d'État le 16 mars. Mais sinon, en fait, on ne pouvait pas les arrêter en masse, parce que les arrêter en masse, ça voulait dire qu'on ne pouvait plus continuer la guerre.
Et justement, pour rester sur la situation du mouvement des forces armées et de cette journée du 25 avril, est-ce qu'on peut dire que ce renversement d'Oustadnov a été un renversement pacifique à 100%? On entend souvent que c'est un mouvement pacifique. Est-ce que c'est réellement le cas?
Moi, je commence le bouquin sur une chose qui m'a beaucoup marqué à Lisbonne. Vous connaissez probablement à Lisbonne le lac du Calme, qui est une très jolie place en plein cœur de Lisbonne. Et c'est là où s'est joué le 25 avril, parce que c'était le siège de la gendarmerie. Et c'est là où Marcel Caetane se réfugie le matin du 25 avril. Et c'est là où une colonne du MFA dirigée par Sergei Lumaï entoure le siège de la gendarmerie et demande la reddition de Marcel Caetane. Et Caetane n'y répond pas tout de suite. Le gouvernement espère qu'il pourrait y avoir une contre-attaque. Et Mai, pour montrer sa détermination, tire sur la façade. Toute la façade est criblée. Il y a deux moments où on tire, et à un moment, il menace de tirer avec un canon. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que souvent, ça s'est oublié. Et surtout, c'est oublié parce que, à une année que j'ignore, on a ravalé la façade. On a retiré les impacts des balles. Moi, en tant qu'historien, c'était une décision qui n'a pas créé de polémique, alors que tout à l'heure, on a vu une polémique parce qu'on change de drapeau. Là, étonnamment, parce que comment ça se fait qu'on... C'est le 25 avril, c'est sûrement la journée la plus importante du XXe siècle portugais, et notamment, ça s'est joué là, des tirs sur une façade, pour montrer la détermination des militaires, et à user la force s'il le faut pour obtenir la reddition, et ça, on l'a retiré. Alors sûrement parce qu'on trouvait ça pas beau, etc. Mais à Paris, si vous baladez à Paris, il y a plein d'impacts de balles partout, notamment de la Résistance, de la Première Guerre mondiale. Et je pense que si on l'a retiré, c'est notamment pour alimenter cette idée d'une révolution pacifique. Et il est vrai qu'il y a eu relativement peu de morts le jour J, le 25 avril. Il y en a eu 4 personnes qui ont été tuées par la police politique, et un agent de la police politique. Et donc, en termes de révolution, c'est sûrement pas la plus mortifère, mais souvent, ce qui est mis, là où il y a une interprétation qui est peut-être pas juste, c'est que on pense souvent que quand le MFA et Mai et Othello qui dirigeaient les opérations pensaient que ça allait se passer comme ça aussi facilement. Ils pensaient pas que ça allait se passer aussi facilement. Ils avaient préparé un plan très, Othello avait préparé un très très bon plan qui a permis d'éviter les résistances. Mais ils se doutaient qu'il y allait y avoir des résistances. Et ce qui est un élément fondamental, et c'est une chose qu'Othello et que personne n'avait anticipé, c'est qu'il pensait que la population, dès 4 heures du matin, quand les militaires du MFA prennent contrôle de la radio, c'est important la radio, ils disent une opération militaire en cours, surtout restez chez vous, parce que ça peut être dangereux pour vous. Et il faut laisser, en fait, c'est aussi l'idée qu'il ne faut pas que des gens meurent bêtement dans des manœuvres militaires, mais surtout que des civils, ça va les gêner, en fait. Et dès le petit matin, il y a les gens qui vont dans la rue pour soutenir des insurgés, pas pour défendre la dictature. Personne ne sort dans la rue pour défendre Caetano. Et les gens sortent et ça va complètement changer la nature. Parce que, d'une part, ça va donner une force, un dynamisme aux insurgés, mais surtout ceux qui sont contre, ils vont se dire « mais le peuple, il est contre nous. On va pas... on lutte non seulement contre des insurgés, mais aussi contre une population qui a pris parti pour eux tout de suite. » Et ça, c'est vraiment une des choses qui n'était pas prévue. Mais sinon, Othello, ils avaient prévu, donc je vous dis, ils ont tiré sur la façade, parce qu'ils pensaient vraiment que s'il le fallait, il fallait utiliser la force.
Moi, je trouve qu'on le voit bien, ça, dans le film de Mali et Dadel, justement. Tu dois le voir, Tony.
Tout à fait,
je pensais que j'allais passer aux oubliettes.
Mais non, jamais. Je t'oublie pas. Et on a cette image aussi de la révolution pacifique, parce qu'on l'assimile maintenant aux œillets. Donc, ça
tout à fait,
un
ouais.
sentiment de légèreté aussi, quand on pense à cette révolution.
Tout à fait. Cette image des œillets. Ce qui est vrai, et ce que personne... Il y a eu, personne ne pensait, il y avait eu plusieurs tentatives de coup d'État au cours de la dictature. Depuis les années 20, les années 30, dans les années 40, il y en a une en 61, elles échouent toutes. Il y en a une qui a même lieu le 16 mars 74, donc quelques semaines auparavant. Elles échouent toutes pour différentes raisons. La police politique réussit à les arrêter auparavant. Et celle-ci, ce qui va marquer, c'est que non seulement elle réussit, mais elle réussit en 18 heures. C'est-à-dire que à 18 heures, Caetano a accepté de rendre le pouvoir. Et avec très peu d'usage de la force, et très très vite ce soutien populaire, et une des marques de ce soutien populaire, c'est que les gens ont soutenu les militaires insurgés, leur ont notamment donné à manger, leur ont donné des indications, il faut passer par là, il fallait là, etc. Et ont très vite, à Lisbonne, il y avait beaucoup de marchands ambulants, parce que notamment une partie de révolution a lieu dans la Baixa, qui est le quartier commercial de Lisbonne, et donc spontanément, des marchands de fleurs ont offert des œillets à ces militaires qui les ont mis sur l'uniforme et après sur leurs armes. Et donc très très vite, l'image de marque de la révolution va être liée aux œillets, donc la révolution des œillets.
Est-ce que de nos jours, par rapport à la révolution donc, des œillets, du 25 avril à aujourd'hui, il aura fallu attendre combien de temps pour que le Portugal se stabilise sur le plan économique et politique ? Si tu as une estimation.
Bien sûr. Donc la révolution commence le 25 avril. Donc autant la dictature tombe très vite, autant ça va prendre plusieurs mois pour qu'il y ait un régime stable et des institutions stables. En fait, la date du 25 avril va être importante, parce que 25 avril 74, chute du coup d'État. 25 avril 75, élection, avec cette participation que j'ai évoquée tout à l'heure, une participation majeure. Et 25 avril 76, promulgation de la nouvelle constitution. Et ensuite, il va y avoir des élections législatives et présidentielles. Et donc, à partir de 76, à partir du printemps 76, on a peu ou prou des institutions qui fonctionnent, et notamment basées sur des civils et non pas des militaires, et issues d'un vote libre de la population. Donc, c'est 76. La stabilisation économique, un des problèmes, et ça, c'était pas leur faute, des militaires, c'est qu'ils font un coup d'État alors que c'est la grande crise de 73, qui commence 73 avec le choc pétrolier. Le Portugal n'est pas producteur de pétrole, donc beaucoup de prix augmentent. Et donc, la période n'est pas vraiment la meilleure période pour faire une révolution. La situation économique n'était pas bonne. Et d'autre part, il va y avoir, et c'est une chose que j'essaie de développer dans le livre, très rapidement, partout dans le pays, il y a des mouvements de grève. Des grèves, les gens étaient très mal payés, donc demandent plus de salaire. Les gens n'avaient pas de congés payés. Et les gens notamment savaient, par leurs proches qui étaient en France, que ça existait les congés payés, donc ils demandent des congés payés. Ils demandent aussi une chose importante, c'est l'épuration au sein des entreprises, contre les patrons qui collaboraient avec la police politique pour surveiller la population, contre les cadres qui collaboraient avec la police politique pour dénoncer un tel est peut-être communiste, un tel a dit ça sur Salazar, un tel a demandé de meilleurs salaires, et ça, c'était pas possible. Et donc, il y a tout un mouvement de revendication d'épuration. Et après, au cours de l'année 74-75, il y a tout un mouvement de crainte que la droite et l'extrême droite veuillent reprendre le pouvoir. Et que les capitalistes portugais, les grands groupes économiques portugais, qui avaient évidemment prospéré sous la dictature, veuillent reprendre le pouvoir. Et donc, il y a beaucoup d'expériences de autogestion des ouvriers qui occupent leurs usines parce qu'ils ont viré le patron. Ou de contrôle ouvrier, c'est OK, on laisse les patrons, mais les patrons doivent nous donner toutes les données pour qu'on puisse prendre part au gouvernement de l'entreprise.
Et toutes ces informations, on peut les retrouver dans ton livre. Félicitations pour ton travail de recherche. Donc n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage « C'est le peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976 » de Victor Pereira. En voilà un très beau cadeau de Noël, n'hésitez pas à vous le procurer. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause, à tout de suite. Merci d'être avec nous sur Termstad 2.1. J'espère que votre après-midi se passe bien. Dernière ligne droite pour l'émission Termstad 2.1, accompagnée de Victor Pereira. Julie, tu as une question, comme d'habitude, pour notre invité.
Alors, rapidement, est-ce que tu aurais une petite anecdote, vu que tu es prof, avec tes élèves, qu'ils soient positifs ou négatifs, quelque chose qui t'a marqué ?
Très bonne question. Une anecdote positive ou négative ? Il fallait me demander ça avant, avant que je m'en rappelle. Parce que je suis trop vieux.
C'est sûr qu'il y en a plein.
En fait, moi, j'enseigne depuis assez jeune, depuis que j'ai l'âge de 21-22 ans. Il y a quelques années, j'étais à la Bibliothèque nationale de France, c'est là où je bosse. Et à la Bibliothèque nationale de France, peut-être que vous voyez où c'est, il y a des grandes tours, mais en fait, les chercheurs, ils sont tout en bas, dans une sorte d'énorme cave. Donc il faut descendre, et donc il y a deux niveaux, il y a là où tout le monde peut aller, donc les étudiants, et en bas, il y a juste les chercheurs. Et à un moment, je suis assis tranquillement à ma table, et quelqu'un vient me voir et me dit « Bonjour, vous êtes Victor Perra ?» Je fais « Oui ?» Pourquoi? Et c'était quelqu'un qui était relativement jeune, qui devait avoir une vingtaine d'années. Il dit, ah, je suis votre ancien étudiant. Je dis, quoi? Et en plus, il était d'origine portugaise. C'était un étudiant que j'avais eu à Sciences Po Paris. Et il me dit, ah, mais parce que, en fait, moi, je fais des études de droit, je suis déjà en thèse et j'ai déjà un poste de maître de conf. Donc, l'anecdote, c'était, moi, je ne m'attendais pas à que quand tu retrouves des étudiants, tu es content de savoir ce qu'ils font. Et en plus, il avait fait de la recherche. Et c'était devenu mon collègue, en fait. Donc, c'est une anecdote, c'est sûr. Quand t'es prof, en fait, tu vois tous les ans beaucoup d'élèves.
C'est l'élève qui dépasse le maître.
Exactement, c'est ce que t'espères à chaque fois. Et après, t'es assez content de voir ce qu'ils deviennent. Mais hélas, on n'a qu'une des informations que d'une toute petite partie de nos anciens étudiants.
Ouais, c'est dommage. Donc, donnez des infos à vos anciens enseignants, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Mais si c'est souvenu de toi, c'est que tu es un bon professeur.
Ouais. Mais après, on se rappelle tous de nos profs, même des mauvais profs. Hein. Parfois, on se rappelle bien des mauvais profs.
Les mauvais, surtout.
Ouais. Tous les mauvais, ouais.
J'en ai pas tiré de conséquences. Tout le monde chez soi se dire, ah oui, je me rappelle de monsieur X. Moi, notamment, ma mère, elle a été traumatisée par un de mes anciens profs d'histoire. Parce qu'il avait dit pas du bien de moi, alors que j'étais bon en histoire. Donc, je me rappelle de lui, alors que c'était pas J'en garde pas un bon souvenir.
Et avant de se quitter, les bons plans de Termstadt.
Alors tout d'abord, il y a encore des concours en cours. Donc on a le concours pour gagner le livre de Wendy Nazaret. Et il y a le concours anniversaire de Cap Magellan qui est toujours en cours sur nos deux comptes Insta. On lance aussi le concours lundi sur le livre Le Mariage Maya. Pour les bons plans de Cap Magellan, Cap Magellan cherche des bénévoles rédacteurs pour le Cap Mag, donc en français ou en portugais, sur plusieurs articles, notamment Tribune, Musique, Exposition, Association, Vous et vos parents et Nuit Lusophone. N'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations. Il y a également le programme d'atelier Parcours Pro qui aura lieu le 16 décembre avec Cap Magellan. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au préalable. Également, n'hésitez pas à aller écouter le nouveau podcast de Cap Magellan plus 351. Le premier épisode est disponible. Et si vous avez des idées ou envie de participer, n'hésitez pas à les contacter. N'oubliez pas non plus de prendre vos places pour le concert de Bianca Costa à La Cigale le 14 décembre, si je ne me trompe pas. Et si vous êtes sur Paris le 8 décembre à 18h30 à la Pastelerie de Belin à Paris dans le 17e, il y aura une nocturne poétique lusophone.
Là, tu emploies des mots qui me parlent. Pastelerie de Belin.
Merci Julie pour ces bons plans. Et je rajoute surtout un petit cadeau que tu vas pouvoir t'acheter, Tony. Le livre de Victor Perra, c'est Le Peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976. Un joli cadeau de Noël. Merci Victor d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Repasse nous voir quand tu veux. Et nous, on se donne rendez-vous samedi prochain, de 14h à 16h. Et je vous souhaite à tous un très très bon week-end.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Et puis envoyez-nous vos photos de votre sapin de Noël. On les attend.
Tempestade 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas e podcast do site radioalfa.net. Tempestade 2.1.